Frères et sœurs bien-aimés, c'est peut-être la première fois que vous entendez cette lettre de l'apôtre saint Paul à Philémon, puisque ce n'est pas de coutume de la lire un dimanche, mais elle est heureusement choisie par la liturgie pour nous aider aussi à comprendre le sens de l'Évangile. Philémon à un esclave, Onésime. Onésime qui peut-être, à cause de difficultés, etc., a dû quitter la maison de son maître, et il a fait la rencontre de Paul. Et comme Philémon, Onésime a été baptisé par Paul, a été touché par sa prédication, et voilà que Paul renvoie Onésime, comme le demande la loi romaine, renvoie Onésime à son maître. Mais il renvoie Onésime avec une lettre. Et dans cette lettre, il ne lui dit pas ce qu'il doit faire, mais simplement, il lui rappelle que d'abord lui, Paul, l'a engendré à la vie du Christ par le baptême, lui, Philémon, et donc de se rappeler ce qu'il lui doit, mais aussi, il rappelle tous les bienfaits qu'il a eus envers Onésime et de la part d'Onésime. Il dit la chose suivante, « S'il a été éloigné de toi pendant quelque temps, c'est peut-être pour que tu le retrouves définitivement, non plus comme un esclave, mais mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé. » Au fond, à travers cette lettre, c'est l'invitation à redimensionner toutes nos relations humaines à la lumière du Seigneur. Et on comprend bien l'invitation de Jésus dans l'Évangile qui peut paraître difficile. Celui qui ne me préfère pas à son père, à sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il n'est pas digne de moi. Et on se dit, mais c'est un peu en opposition avec le commandement de la Torah. Les 10 commandements, honore ton père et ta mère. Est-ce que ce n'est pas directement en opposition avec ça? Au fond, le Seigneur nous invite à revisiter nos relations et singulièrement nos relations familiales. Comment est-ce que nous envisageons la place de chacun par rapport à nous et de nous par rapport à chacun? Des enfants par rapport aux parents, des époux entre eux, de tous ceux qui, des frères et des sœurs, nous dit Jésus, comment est-ce que ces relations sont vécues? Et est-ce que ces relations sont vécues dans le Christ? Qu'est-ce que ça veut dire, des relations vécues dans le Christ? Ça veut dire, est-ce que je laisse l'autre libre de son propre chemin? Est-ce que mon appartenance au Seigneur me fait renoncer à toute forme d'emprise sur l'autre à l'intérieur des relations familiales? Parce qu'il peut y avoir des relations familiales sous prétexte d'affection, sous prétexte de tendresse, d'amour, qui sont des relations toxiques. C'est quoi une relation toxique? C'est une relation qui ne laisse pas l'autre grandir. Et on voit, par exemple, dans les relations parents-enfants, des relations toxiques où toujours je laisse l'autre avec la tête sous l'eau pour pas qu'il devienne mon alter ego, qu'il devienne un adulte. Je me souviens, dans une préparation au mariage, avoir accompagné un couple, et elle disait, je trouvais ça tellement beau, elle disait à lui, son fiancé, premièrement, je peux être heureux sans toi, heureuse sans toi, et deuxièmement, tu ne seras jamais le premier dans ma vie. Un couple qui démarre comme ça a de longues années devant lui, parce que c'est un couple qui démarre bien. L'autre n'est pas une béquille pour trouver un bonheur. Et quel est le premier dans ma vie? Eh bien, pour elle, et puis comme pour lui aussi, c'est la présence de Dieu qui était première. Et si vous mettez en premier ou votre époux ou votre épouse ou vos enfants, eh bien, d'une certaine manière, vous les asphyxiez. Vous leur demandez d'occuper la place de Dieu. Et donc, forcément, à un moment donné, ils vont sentir qu'ils ne sont pas à la hauteur, et loin d'en faire des adultes, des personnes libres, vous allez les tenir dans une certaine domination, dans un certain contrôle, sous prétexte de bonnes intentions, parce que je veux que tu sois le premier. Mais on voit comment rencontrer le Seigneur, ça fait revisiter notre relation. Les enfants n'ont certainement pas à être les premiers dans la famille. Sinon, on en fait des enfants rois, on en fait des tout-puissants. Et on voit la difficulté aujourd'hui dans l'éducation à mettre l'enfant à sa place. Mais de même dans le couple, ce n'est pas l'autre qui est premier, parce que l'autre est premier, du coup il a pèse sur lui une responsabilité considérable, et donc c'est source de culpabilité. Non, l'affirmation de la transcendance, et nous qui sommes disciples de Jésus, l'affirmation de notre attachement au Christ fait que, parce que lui, il est premier, hein, m'est avis que le Christ a la première place, oui. Parce que lui, il a la première place. Les autres peuvent occuper une place, certes, dans mon cœur et dans mon affection, etc., mais pas une place qui les met dans une situation de dépendance et dans une situation d'oppression. Pas une place... Non, au fond, le mettre le Christ à la première place, c'est faire que les autres deviennent libres. De même que Philémon, s'y met le Seigneur à sa première place, lui qui est maître de l'esclave Onésime, eh bien, il reverra Onésime avec un autre regard, non pas comme l'esclave, et vous le savez, hein, dans la loi romaine, l'esclave, on pouvait l'acheter et le vendre, c'était, il avait le statut de chose. Eh bien non, parce qu'il a fait la découverte du Seigneur, il verra, et pas avec la lettre de saint Paul, en plus, Onésime arrive avec la lettre de saint Paul, il le verra comme son frère bien-aimé, mieux qu'un esclave, dit saint Paul. Alors oui, si nous avons rencontrer le Seigneur dans notre vie, si nous sommes là, c'est que d'une manière ou d'une autre, à tâtons, nous sommes à sa rencontre, à sa recherche. Eh bien, dans les relations familiales, dans les relations de couple, eh bien, c'est l'invitation à travailler et de voir qu'est-ce qui peut être, sous prétexte d'affection et de tendresse, de garder l'autre dans une emprise. Et qu'est-ce qui peut être, de ma part, forme de manipulation, une forme de, à travers l'affect, je me sers de l'affect pour utiliser l'autre pour ne, et l'empêcher de devenir adulte. Et on voit bien que Jésus, dans l'invitation à le suivre, il dit, mais réfléchissez bien, à travers les exemples, les deux petites paraboles qu'il donne, hein, de l'homme qui construit et de l'homme qui va en guerre, réfléchissez bien avant de dire que vous êtes disciple de Jésus. Est-ce que vous avez l'audace de me laisser à moi la première place? Et donc, est-ce que vous avez l'audace aussi dans votre famille à faire que l'autre grandisse? Vous savez que le mot autorité, il y a nombre de parents dans cette assemblée, le mot autorité vient du latin augere qui veut dire faire grandir. Mais ça vient autorité, on reconnaît aussi le mot auteur, que l'autre devienne l'auteur de sa propre vie. Qu'est-ce que l'éducation sinon que l'autre, l'enfant qui, petit à petit, devienne auteur de sa propre vie, devienne adulte, devienne, sache prendre des risques. Et on voit tout le rôle du père dans la famille dans ce sens-là. Le père met au monde, si la mère met au monde, je veux dire, biologiquement, charnellement, le père met au monde au plan symbolique, c'est-à-dire qu'il envoie au monde, il dit voilà, ne reste pas dans une sécurité, une fausse sécurité, va vers ce monde. Et dans ce sens-là, il le rend libre. S'il est un fil rouge qui traverse les lectures de ce jour, c'est bien cette question de liberté de Onésime face à Philémon, mais de liberté à l'intérieur de nos relations familiales. Est-ce que je suis capable de dire non, par exemple, étant à l'âge adulte, de dire non à mes parents? Est-ce que je suis capable de déplaire? Pas plus tard qu'avant-hier, je reçois un couple, et on voit ce couple est en difficulté parce que chacun ne veut pas déplaire à ses parents. Or, forcément, devenir adulte fait qu'un jour, vous allez déplaire à vos parents. J'allais dire même plus. Un jour, vous allez trahir vos parents, c'est-à-dire ne pas répondre à l'attente qu'ils ont sur vous. Et c'est ça qui va vous faire devenir adulte. Et ils étaient les deux malheureux, cherchant, parce que peur du conflit, par désir de plaire, à faire plaisir. Mais on voit bien, c'est quelque chose qui enferme. Et je leur dis, mais où est la place de la transcendance dans votre vie? Où est la place du Seigneur dans votre vie? Est-ce que cette place-là, vous, vous emmène aussi à peut-être dire non, à décevoir l'attente des parents. Et pour devenir l'alter ego de ses parents, à un moment donné, il va falloir décevoir ses parents. C'est indispensable, sinon on ne devient jamais adulte. Et qu'est-ce qui nous permet? Et donc ça veut dire gérer sa propre culpabilité aussi, d'une certaine manière. Et puis, ça veut dire au plan spirituel, parce que j'ai mis la transcendance, la grande altérité de Dieu dans ma vie, au cœur de ma vie, eh bien, les autres altérités avec les petits a, les autres relations, elles-mêmes trouvent de quoi s'équilibrer et être, d'une certaine manière, source de liberté, d'affection. Mais vous qui êtes parents ou grands-parents, posez-vous la question, comment progressivement, à mesure que l'enfant grandit, je suis capable de le faire naître à lui-même, à devenir auteur de sa vie? Où est-ce que je suis encore dans cette emprise et dans le mettre à la première place et donc aussi l'empêcher de grandir? Alors c'est vrai que être disciple de Jésus, c'est pas facile, parce que on a tous, comme parents, ou dès qu'on aime quelqu'un, sans être parent, grand-parent, oncle, tante, etc., dès qu'on aime quelqu'un, on a des attentes sur cette personne, c'est inévitable. On aimerait bien qu'il fasse ceci, qu'il fasse telles études, on aimerait bien qu'il choisisse tel partenaire pour construire un couple, on aimerait bien qu'il s'oriente dans telle profession, c'est logique, ça va avec la nature même de l'amour, mais notre amour a besoin d'être purifié. Et accepter que l'autre choisisse un chemin qui n'est pas celui que j'aurais voulu pour lui, eh bien, ça demande soi-même d'être une grande liberté intérieure et ça demande d'avoir un vrai attachement à Jésus, de dire, avant d'être mon enfant, mon petit enfant, mon neveu, ma nièce, etc., mon filleul, etc., avant d'être ça, il est d'abord dans les mains de Dieu. Et même s'il choisit un chemin qui me semble un mauvais chemin, je pourrais l'en avertir. Mais adulte, on le sait bien, il fera bien ce qu'il voudra. Mais à quoi je vois que je suis disciple de Jésus? Parce que je rentre dans l'éducation, dans un chemin de confiance. Et à quoi on reconnaît une bonne éducation? C'est pas simplement dire merci, pardon, s'il vous plaît. Hein? Non, à quoi on reconnaît une bonne éducation? C'est que la personne, une fois adulte, a une légitime confiance en elle-même, qui n'est ni égo démesuré, mais une fierté légitime, une confiance qui lui permet d'aborder la vie avec une grande gratitude et d'aller au-devant peut-être des difficultés, comme bâtir une tour ou aller en campagne contre un ennemi. Oui, parce qu'il aura senti que le Seigneur a la première place dans sa vie, et parce qu'il a la première place dans la vie des parents, ben lui-même aura pu grandir et devenir auteur. Alors, évidemment, ça questionne beaucoup de choses, ce que je vous dis. Ça questionne beaucoup de choses parce que peut-être dans votre éducation, vous n'avez pas été élevé comme ça. Ou peut-être dans l'éducation que vous voulez transmettre, vous vous apercevez qu'au fond, ce n'était peut-être pas la bonne manière. Ben, je pense que il n'est jamais trop tard déjà de remettre sous le regard du Seigneur ce qui a pu être dans l'éducation reçue ou l'éducation donnée, mais ce qui a pu ne pas être un chemin de liberté, puisque le Seigneur, au début de la parole, vous avez entendu, hein, voilà, il est en route. C'est alors qu'il était à table, vous vous rappelez, le week-end dernier, dimanche dernier, qui est le premier des convives, qui faut-il inviter, etc. Là, il se met en route. Et ce n'est pas pour rien qu'il dit cette parole en étant en route. Parce que la liberté, c'est un chemin. Et ce n'est pas inscrit dans le marbre. On ne naît pas libre, on le devient. On devient, et c'est l'éducation qui nous permet de devenir libre. Et c'est l'expérience de l'amour du Seigneur qui nous permet de devenir libre. Alors oui, dans ce chemin, on le voit bien, il y a des embûches. On voit que c'est peut-être on a pris des chemins de traverse, des impasses, parce que ça a été des relations qui ne nous ont pas aidés à grandir. Eh bien, être disciple de Jésus, ce n'est pas se positionner simplement comme victime. Ah oui, mon père ceci, ma mère cela, etc., mon frère cela. Bon, non, celui qui se positionne comme victime ne grandit pas. Il reste dans un état infantile. Non, c'est assumer ce qui a pu être sa part de complicité avec une relation toxique, mais aussi pardonner et rentrer dans une dimension de miséricorde. C'est ça qui nous rend libres, parce que j'ai moi-même expérimenté la miséricorde du Seigneur. Alors on va, frères et sœurs bien-aimés, demander cette grâce aujourd'hui de façon particulière dans notre Eucharistie, cette grâce de revisiter toutes nos relations familiales, tous ceux avec lesquels nous sommes proches, le prochain proche, c'est ça, ou souvent c'est le plus difficile, et puis de demander, mais est-ce que je ne suis pas dans une vraie liberté face à cette personne? Est-ce que je vis par procuration par rapport à telle personne? Et moi-même, est-ce que je laisse l'autre vraiment libre advenir à lui-même pour qu'il devienne le témoin d'un Dieu qui nous appelle des ténèbres à son admirable lumière? Amen.